entre du mouvement et au Cachin oriental. J'ai réfuté totalement ce qui s'est
passé. Moi, j'ai essayé de le combattre au plus grand âge, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons parler VIH-SIDA en prélude de la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui sera célébrée demain le 1er décembre. Le dernier rapport publié en novembre dernier par le programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA montre que 56 pays au moins ont réussi à stabiliser ou réduire de manière significative le nombre de nouvelles infections à VIH. Le nombre de nouvelles infections a reculé de près de 20% en 10 ans dans le monde. Les décès liés au VIH-SIDA ont diminué de près de 20% aussi sur les 5 dernières années et les personnes vivant avec le virus voient leur nombre se stabiliser. En RDC, selon les statistiques recueillies sur les femmes enceintes en consultation prénatale, la tendance générale est à la stabilisation, mais il y a des zones où plutôt on constate une augmentation des cas du nombre des personnes infectées. Avec vous, chers auditeurs, nous allons faire un état des lieux de la situation du VIH-SIDA dans vos milieux et surtout faire des propositions sur des comportements conséquents adopté face à cette épidémie. Aimé Moyo sera notre invité. Il est du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA. Kiki Poutou, Pierre Lamégé, Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba à la présentation. Aimé Mukindu à la mise en œuvre.
Radio Okapi négocie avec vous sur la solution. En direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, lors de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
La lutte contre le VIH-SIDA est au centre de Parole aux auditeurs d'aujourd'hui. Vous connaissez bien nos numéros de contact, le 081-890-6315, et aussi la seconde possibilité, c'est de nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Déjà les auditeurs sont au bout du fil, Kitoko, Benjamin et Aimé. Nous commençons par Kitoko qui se trouve en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour.
Et à votre avis, quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous constatez que le VIH-SIDA a fait des ravages dans votre milieu?
Certainement, madame. Le sida est devenu un problème très difficile, une catastrophe à l'état arrêté, difficile à arrêter, on dirait.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour adopter un comportement responsable face à cette épidémie?
La première des solutions que moi je peux donner aux auditeurs, des paroles aux auditeurs, c'est d'abord d'éviter les rapports sexuels à haut risque. Lorsque je parle des rapports sexuels à haut risque, je vois les rapports sexuels contractés hors les mariages. Parce que lorsque vous allez contracter des rapports sexuels avant les mariages, parfois vous n'avez pas le temps de vous faire examiner vous ainsi que votre conjoint, alors vous pouvez tomber sur une femme déjà atteinte et ça va vous poser un problème. Et en deuxième lieu, je peux aussi dire que les gens ne puissent pas utiliser des objets tranchants qui ne leur appartiennent pas. Parce que quand vous utilisez par exemple une gilette qui a déjà été utilisée par une personne infectée, déjà ça va vous poser un problème. Parce que vous pouvez vous blesser par mégarde. Et après cette blessure, certainement vous serez atteint. Il y a aussi le problème des ports, des condoms ou des préservatifs. Les gens disent que même si je peux coucher avec une femme qui ne m'appartient pas, ou une femme de la rue, une petite, je dirais par exemple, vous ne connaissez pas l'état de cette femme-là, vous allez porter des préservatifs, croyant vous protéger. Mais contrairement, c'est un très haut risque parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver durant ces relations sexuelles-là. Peut-être que le condom pourrait avoir une fissure. Et lorsqu'il y a déjà contact, ça peut vous poser aussi un problème. Il y a aussi l'affaire de se faire examiner avant le mariage. Vous trouvez surtout ici au Kassai où nous sommes, les femmes sont prêtes à se marier avec des messieurs. Dès que les messieurs se présentent à la maison, ils donnent les nécessaires, la dot et tout ça. Tout d'un coup, la dame accepte et elle va au mariage. Elle ne sait pas. Ce monsieur-là, est-il déjà à temps ou pas? Lorsque vous leur dites, allez d'abord vous faire examiner, ils vous disent, ça c'est une politique que vous avez pour détruire le mariage des autres. Donc vous trouvez des femmes qui vont au mariage sans se faire examiner avec le monsieur. Ils se retrouvent à la maison, 2, 3, 4 mois, c'est la femme qui commence à tomber malade et puis c'est le monsieur et tous disparaissent. Tout ça c'est quoi? Ce sont les erreurs. Il faut d'abord se faire examiner avant le mariage. De manière à prévenir, si peut-être même le conjoint est atteint, alors on peut voir dans quelle mesure soit briser le mariage ou ça dépendra de la volonté de chacun d'eux. Donc, en général, moi je dirais qu'il faut être prudent avant de commettre un acte comme celui-là. Donc, veillez sur les objets transients, veillez sur les rapports sexuels. Sinon, moi je conseillerais surtout aux jeunes comme moi de ne pas contracter des rapports sexuels avant le mariage.
Merci Kisoko, vous conseillez la prudence pour tous les cas. Nous prenons directement Benjamin Dissiro, bonjour.
Merci, bonjour dame.
On vous écoute Benjamin, bien sûr, nous attendons encore notre invité, Monsieur Mimbouyo, qui va arriver d'un moment à l'autre. Mais on poursuit notre émission, Benjamin, vous avez la parole.
Merci bien, c'est un très bien choisi là. Car vous savez que le sida ravage vraiment notre monde, ça n'épargne personne. Ça frappe tout le monde, que ce soit enfant, jeune ou comment, papa. Donc, c'est une maladie aussi qui est incurable. Pour cela, nous devrons peut-être éviter beaucoup de risques, donc des comportements qui peuvent aussi nous amener à haut risque d'avoir le sida. Par exemple, c'est que l'auditeur précédent venait de le dire, les mariages occasionnels, la date de rapport sexuel occasionnel. Ça aussi sont des grandes lignes qui peuvent aussi introduire de telles maladies dans notre société. Et typiquement, vous savez, dans notre ville ici, si on voit l'échelle des sida, notre ville d'ici est située vraiment peut-être à la deuxième position, car vous savez que Messou est tout près de la ville d'ici, et le pourcentage est un peu augmenté. Et c'est pour cela que je veux inviter aussi les gens, les habitants de la ville d'ici, d'être prudents. Éviter au moins de rapports sexuels occasionnels. Et ce fait, je pouvais aussi ajouter le problème de transfusion sanguine. Vous savez aussi, dans nos milieux reculés ici, on n'a pas de belles laboratoires, de bons laboratoires. Pourquoi? Parce qu'on peut vérifier les sangs, on veut dire que celui-là n'est pas encore malade. Or, cette maladie peut être à la période d'incubation et tout ça. Ah, vous savez que la période d'incubation peut prendre au moins 15 à 10 ans.
Non, c'est trois mois, ça a été confirmé. Donc, si vous avez eu des rapports sexuels non protégés, ou bien si vous avez, par hasard, vous êtes blessé avec un objet qui a été contaminé, donc maintenant, il vous faut, en moyenne, c'est trois mois, c'est après trois mois qu'on découvre, après test, si vous avez le sida. Avant cela, ce sont des probabilités. Mais nous aurons notre invité pour en donner plus de précision. Donc, vous parlez de la transfusion sanguine. Qu'est-ce que vous allez ajouter, Benjamin?
Oui, j'allais ajouter aussi, il faut qu'on lui tombe par rapport à cette pandémie, on fait aussi des sensibilisations. Par exemple, ici à Ishuro, il y a des troupes théâtrales qui sensibilisent les gens. Quand je dis aussi, le PNMLF qui aide aussi les gens, fait que tout le monde soit vraiment sensibilisé, qu'ils sachent que le sida est là, ici, il n'est pas n'importe quelle personne. Soit toujours président comme l'autre auditeur
président. Vous aussi, vous prenez la prudence, Benjamin Dissiro. Merci. Bonjour, Aimé, de Kinshasa.
Allô?
Oui, Aimé, on vous écoute. Vous avez suivi déjà vos prédécesseurs. Ils ont parlé de l'abstinence, fidélité, port du préservatif, dépistage volontaire. Mais ce sont des choses que tout le monde, en général, tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ce comportement? Parce qu'apparemment, les infections continuent à contaminer et il y a des personnes qui sont toujours victimes.
C'est question seulement de sensibilisation. Donc, il faut sensibiliser la population. Vous voyez maintenant comment est-ce que le sida est régressé. C'est parce qu'on a sensibilisé tous les médias, les journaux, les talicots, tout était en sensibilisation. Et maintenant, Je suis là. Vous avez dit là, je suis notre secrétaire. Vous avez dit là qu'il y a 56 pays. Maintenant, le taux est adopté de 20%. Donc, c'est question de discipline, question de sensibilisation. Maintenant, actuellement, à de Kinshasa, il y a des sites là qui a beaucoup de femmes libres qu'on a appelé les tchèles. Tu vois là, l'attitude du soleil, le médecin vient, il contrôle, et puis maintenant tout est calme, mais les propagations des maladies ne se font plus.
Et mais ce que je voudrais souligner, que les chiffres que nous avons de la RDC sont en grande partie basés sur les femmes enceintes qui vont dans des consultations prénatales. Donc ce n'est pas vraiment, disons, ça ne peut pas se refléter sur tout le pays, mais notre invité va venir d'un moment à l'autre pour donner des chiffres, parce que là, ce sont des femmes enceintes qui vont en consultation prénatale et c'est obligatoire pour voir dans quelle mesure réduire en fait la transmission du VIH-SIDA entre la femme et l'enfant. Donc il n'y a pas beaucoup des jeunes ou bien des parents qui vont se faire dépister volontairement, ce qui permettrait d'avoir un chiffre un peu global. Donc ouais. Il faut vraiment prendre ces chiffres-là avec beaucoup de pincettes parce que ça ne montre pas vraiment la réalité des statistiques en RDC.
Non, il y a une réalité, la réalité est palpable. Il y a maintenant beaucoup dans des hôpitaux, dans des centres hospitaliers maintenant. On a mis des centres de dépistage, ils sont vrais pincettes. Vous pensez que c'est gratuit.
Ça, c'est pour les femmes enceintes, hein, mais c'est pas les femmes enceintes, les femmes à l'âge de procréer ou celles qui sont enceintes, ce n'est pas la moitié de la population en RDC.
Mais il y a des ceux-là aussi qui vont se faire dépister de eux-mêmes. Moi, dernièrement, en l'an 2008, je me suis allé me faire dépister comme ça volontairement, j'avais vu beaucoup de gens.
Mm-hmm.
Hein. C'est question seulement de sensibilisation, question d'éducation. Le média est là. Auparavant, les gens ne se rendaient même pas dans des pistes de dépistage volontaire.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, au moins, nous parlons. Allez, j'ai été constaté dans ce centre-là. Moi, je me suis fait dépister aussi chez les femmes fondations, en plus, en Guérigny. Mais il y a des gens qui répondent là-bas, de jour au jour. Les jours où je suis allé, il y avait beaucoup de gens qui sont allés faire des pistes. Mm-hmm. C'est question seulement d'éducation, de sensibilisation. C'est une discipline. Comme vous l'avez dit là, mes précédents, ils ont dit que les questions de satellite, aujourd'hui, tous les rapports occasionnels ne se font plus, hein. Les gens sont venus, c'est un peu vigilants, hein.
Mm-hmm.
Puis, par exemple, là où moi j'habite, les gens sont devenus plus vigilants, de savoir de pas d'aller n'importe quoi. Et puis, les enfants là qui mettent un peu de vernis partout par là. Bon, en tout cas, faut voir comment est-ce que les gens sont pris là avec cette éducation-là.
Mm-hmm.
C'est question de discipline, c'est question de sensibilisation tout simplement.
Merci voilà, beaucoup, Aimé de Kinshasa, pour votre intervention et surtout votre témoignage, parce que vous dites que ces derniers temps, il y a affluence vers les centres de dépistage volontaire. C'est un témoignage assez fort. Nous allons aller au Kasaï occidental, précisément à Kananga, où se trouve Sédou. Nous rappelons que nos contacts, c'est le 081-890-6315, 081-890-6315, ou écrivez-nous à l'adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs. Par internet pa@radiocapi.net.
On attend toujours de notre invité, Monsieur Nimbayo, qui va venir incessamment. Ce que me dit la réalisation, il est représentant de la coordination nationale du programme de lutte multisectorielle de lutte contre le VIH/SIDA. Nous prenons d'abord Seydou de Kananga. Bonjour. Seydou, bonjour. Seydou, là, en attendant que Seydou, parce que là, on a un problème de liaison avec Seydou, nous prenons Dr Richard de Kinshasa. Bonjour, Dr Richard.
Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour à tous les auditeurs.
Aujourd'hui, nous parlons de la lutte.
De tous ceux qui font la lutte contre le VIH/SIDA.
Oui, nous parlons de la lutte contre le VIH. Oui. Dr Richard, donc demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. C'est aujourd'hui une occasion pour nous d'en parler et surtout de sensibiliser. Là, déjà avec les auditeurs, nous avons parlé de la prévention, abstinence, fidélité, preuve de préservatif, Ils ont même fait allusion en ce qui concerne la transfusion sanguine, la sensibilisation. Mais avec vous, docteur, pouvons-nous parler quand même de la prise en charge, parce que c'est aussi un volet de lutte contre le VIH-SIDA. À votre avis, que pensez-vous de la prise en charge? Parce que vous êtes médecin, donc vous côtoyez ce milieu-là. Qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge actuellement en RDC?
Oui, la prise en charge est faite de façon minimale. Pas parce que toutes les personnes, donc les PVV, les personnes vivant avec le VIH, ne sont pas, n'accèdent pas anti-rétroviraux.
Mm-hmm.
Voilà, c'est ça. C'est pour dire que c'est une prise en charge minimale, parce que en dehors des conseils qu'on donne, en dehors de tout ce qu'on fait pour les PVV, le médicament n'est pas accessible à tout le monde. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Mais moi, je souhaiterais qu'on parle plus de la prévention.
Mm-hmm.
Parce que lorsqu'on a une bonne prévention, il n'y aura pas beaucoup de PVV. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui sont les animateurs nationaux de la lutte contre le sida. Pourquoi? Parce que c'est bien de parler de la fidélité, de ceci, de cela, mais je trouve que nous devons avoir des stratégies liées à notre comportement au quotidien. Je donne à titre d'exemple, qu'est-ce que les secouristes bénévoles ont le long des routes lorsqu'il y a accident du trafic routier? Ils sont protégés comment? Beaucoup de gens vont secourir les blessés en se baignant dans le sang des blessés.
Mmh.
Okay? Il y a même des gens dans leur voiture, ils n'ont pas d'équipe de secours. Nous devons ajouter ça aussi comme comportement, comme équipement que tous les conducteurs des véhicules doivent avoir en RDC. La deuxième chose, regardez un peu nos bus que nous prenons, nos taxis. Là, je lance un vibrant appel aux services qui s'occupent du contrôle de qualité de nos véhicules. Ce sont des bus qui blessent les gens au jour le jour. Ce sont des taxis bus qui blessent les gens au jour le jour. Toutes ces blessures ressemblent aux piqûres non stérilisées de serin. J'ai demandé à la bioéthique de l'université de Kinshasa, là où je suis aussi un brevet de bioéthique, de regarder un peu ces deux aspects des choses. Mais, excusez-moi, les gens sont dans la pudeur de réfléchir autrement que sur les lignes bâties, sur les lignes imposées. Ce n'est pas normal. Nous devons faire la lutte contre le sida selon nos faiblesses qui encouragent le sida.
Donc, vous conseillez aux personnes qui empruntent les bus, les transports en commun, d'être vraiment prudents?
D'être prudents et au besoin qu'on puisse invalider les véhicules qui blessent les autres.
Mmh.
C'est ça.
Oui.
Deuxième chose, il faut qu'on ait un secourisme libéral de protection contre le VIH. Il y a beaucoup de gens qui protègent les autres, qui secourent les autres sur les routes là. Mais ils ont tout l'équipement. Ils le font à main nue, ils se baignent dans les sangs des autres, et ça excusez-moi, mais c'est quel type de lutte contre le sida on veut faire? Je crois qu'il faut sortir de la littérature qui inonde le monde entier et s'investir dans le comportement et dans l'insuffisance uniquement du Congolais. Nous faire la meilleure lutte aussi.
Oui, docteur Richard, vous avez fait allusion au taux assez minimal des personnes qui, des PVV, qui sont pris en charge sur l'ensemble de la RDC. Est-ce que vous pensez que cette prise en charge qui soit aussi baisse peut permettre de pouvoir augmenter le nombre des personnes des contaminées en VIH-SIDA?
Si cette prise en charge est minimale,
mm-hmm.
et surtout si la sensibilisation se défaut. Mais il n'y a pas de discussion, le nombre de PVV va augmenter.
Docteur Richard,
pour que la prise en charge soit maximale, il faut aussi qu'on intègre nos insuffisances.
Mm-hmm.
Sinon, on fait un travail pour plébisciter une certaine littérature qui vient de l'Occident, mais sur le terrain, il n'y a rien de bon.
Docteur Richard, nous vous gardons en ligne le temps d'écouter Tadé de Kinshasa et Mathieu de Kananga. Bonjour Tadé.
Bonjour, maman Chantal.
Oui, Tadé, vous nous avez suivis depuis les débuts. Et que pensez-vous pour un changement de comportement adapté aussi à nos réalités en RDC pour lutter contre le VIH-Sida?
Maman Chantal, c'est Tadé Mouloy. Je voulais un peu relier cette situation à l'échange que nous avons fait les 26 de ces mois concernant l'utilisation du préservatif. Je vous avais dit que ici, tout ce qui nous dérange ici, c'est l'importation de la civilisation. Quand on importe ce qui n'est pas à nous, et cela nous amène dans tous ces abîmes. Aujourd'hui, j'ai parlé sur l'axe politique. Quelles sont les actions du gouvernement dans cette affaire? Parce que c'est déjà un fait que nous devons tirer les conséquences. On parle aujourd'hui du sida. Et quand nous apprenons, et quand nous essayons d'approfondir un peu sur les actions qui sont menées sur notre pays, ce n'est que les ONG des privés. Quelle est l'action du gouvernement dans cette situation? Et vous savez bien parler du sida, on condamne même les statistiques au Congo, ça augmente, ça fait ça. Ces statistiques viennent d'où? Parce que les dépistages, ça se fait même dans des petits centres qui n'ont pas de rapport à donner au gouvernement. Des petits centres qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement. Moi, je demanderai d'abord à votre invité, quand je serai présent, qu'il nous dise quel est le sida d'où. Et aujourd'hui, ce qui est plus célèbre, c'est que le sida. Dans les temps, on parlait de syphilis, on parlait de blénorragie. C'était aussi des maladies virales très ravagées. Et aujourd'hui, on nous parle de sida, si comme le sida est plus que toutes les autres maladies. Il y a aussi beaucoup de maladies qui tuent. Ça, nous le prenons mal. Moi, je demanderais à notre gouvernement de plus sensibiliser les gens à conserver nos mœurs, à conserver notre culture. C'est-à-dire, nous, Africains, nous, Congolais, au lieu qu'on ait les prudences, qu'on ait ceci ou cela, quittons les comportements qui n'est pas le nôtre. Chaque fois, si le gouvernement pouvait se comporter de la manière, créer des émissions, diminuer des chaînes de radio pour que les gens puissent comprendre que le gouvernement est juste. Parce que les gens ne connaissent pas que vous faites des émissions sur le sida.
Si vous faites bien, on a compris, vous pensez qu'il faudrait conserver nos mœurs, revenir à nos mœurs, mais aussi le fait de savoir un peu comment les enquêtes sont menées pour avoir des chiffres sur la prévalence du VIH-Sida en RDC. Vous voulez que le gouvernement puisse s'impliquer davantage, mais le fait déjà qu'il existe un programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, cela montre déjà que c'est une préoccupation du gouvernement. Retourner à nos mœurs, oui, les centres contrôlés qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement, en tout cas, à ce que je sache, il y a des rapports qui sont souvent transmis parce que notre pays est subdivisé en zones de santé, centres de santé, donc il y a toute une hiérarchie, souvent ils sont contrôlés, mais n'empêche que c'est votre proposition, vous pensez qu'il faudrait davantage de contrôle et beaucoup de sensibilisation et surtout respecter nos mœurs. Là, vous pensez que là, ça pourra permettre de réduire le taux de VIH. En attendant notre invité, on ne sait pas encore, peut-être que la réalisation me fait signe que ce sera difficile d'avoir notre invité aujourd'hui. Donc, ce sera difficile pour nous d'avoir des éclaircissements sur ce que le gouvernement est en train de faire pour lutter contre le VIH-Sida, mais aussi savoir quelle est la politique réelle du gouvernement à ce sujet. Mais n'empêche, nous poursuivons cette émission parce que c'est de savoir au sein de votre société, dans votre quartier, dans votre milieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le VIH-Sida. C'est ça notre préoccupation et vos propositions sont la bienvenue. Nous avons Mathieu de Kananga. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Madame Chantal.
Oui,
moi, étant un homme inspiré de Dieu, étant prophète, moi je crois que le sida est un phénomène spirituel, madame. Puis un ange de la mort frappant toute personne qui ne marche pas dans la loi de Dieu. Mais je ne m'arrête pas là. Et aussi, c'est un moyen qui permet aux pécheurs de payer l'indemnité de leurs péchés. D'après Deutéronome chapitre 28, verset 27, je déclare. Il te portera d'une sœur d'Égypte, de brigands, de groutes, de plaques rouges, dont il pourra guérir. Disons encore un Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Je déclare que nos corps physiques sont le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit aussi. C'est ce qui fait que dans un couple, l'homme peut mourir aujourd'hui, d'ici là, et la femme reste. Alors, c'est déjà un signe qui montre plus clairement que c'est la justice de Dieu. Là, nous disons que le sida est une punition céleste parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, elle n'a pas encore inspiré les gens à obliger un médicament efficace de guérir le sida. Alors, donc le sida n'est pas une maladie d'après moi ordinaire.
Donc pour vous, c'est un phénomène spirituel.
C'est un phénomène spirituel, madame Chantal.
Mais à votre avis, vous dites que c'est un phénomène spirituel. Est-ce que vous pensez que c'est une fatalité?
Bon, moi je crois que si les gens se donnent à prier et à demander pardon à Dieu, je peux les servir. La seule solution pour moi, comme il est même.
C'est la repentance.
C'est de s'abstenir, c'est mal. Engageant sa pureté sexuelle.
Merci beaucoup, Mathieu. C'est votre point de vue. Vous pensez que c'est un problème spirituel et qu'il faudrait se repentir pour Jésus pour lutter contre le VIH/SIDA. Merci, hein, c'est votre conviction en tant qu'homme spirituel, vous vous êtes appelé vous-même prophète. Donc, nous vous remercions pour votre intervention sur notre radio et surtout dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous revenons d'abord à Dr Richard. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a suivi nos auditeurs. Pour les uns, c'est un phénomène spirituel. Ce n'est pas négligeable parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent que c'est un phénomène spirituel. Mais d'autres, ils pensent que c'est une maladie comme une autre et qu'il faudrait, comme toutes les maladies, éviter, voir dans quelle mesure se protéger. Docteur Richard, vous avez suivi nos deux auditeurs, Mathieu et Thaddée. Que pensez-vous de leur avis?
Oui, je peux dire ceci. Vous savez que beaucoup de choses qui sont dans la Bible des chrétiens sont scientifiques. Et je dirais même que la Bible est aussi scientifique. Lorsque les gens parlent d'un problème spirituel, c'est quoi? La Bible enseigne aussi la fidélité, la Bible enseigne la silence. Mm-hmm. C'est à ce niveau que ces intervenants-là parlent.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui brise la loi de la fidélité, il brise la loi du silence. Il se jette dans des comportements à risque. Voilà comment il est dans le péché. C'est ton langage, elle n'est pas rejetée.
Mm-hmm.
Les gens doivent retenir ce langage, le placer dans le contexte de la compréhension spirituelle de ces gens-là et trouver la substance qui peut aider à ce qu'on puisse lutter contre le sida efficacement à travers ce genre de paroles.
Oui, et Dr Richard, t'as des qui pensent qu'il faudrait retourner à nos mœurs.
C'est-à-dire retourner à nos mœurs.
Pour lui, il pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait accepté l'introduction de ce qu'on appelle civilisation.
Oui, mais vous savez que la civilisation nous a amené aussi beaucoup de problèmes. La civilisation nous a amené des hôtels, et dans ces hôtels, on peut se comporter n'importe comment. Le réceptionniste va cacher la vérité. Ça aussi. La civilisation nous a amené la tricherie. Donc on peut tricher par rapport à sa femme ou à ses femmes. Tout ça, ça nous conduit à des inéquités qui introduisent le sida.
Oui, mais quand même, Dr. Richard, souvent on dit que...
La civilisation, on dit civilisation, c'est que la chute de certaines barrières, qui étaient collées par la communauté locale indigène ancestrale, ces barrières sont tombées.
Mais on dit souvent que, en fait, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, donc ça existait dans nos sociétés anciennes. Et puis l'adultère aussi, ça existait depuis longtemps. Ce ne sont pas des faits liés à la civilisation, comme pensent certains.
Oui, quand on parle de la civilisation, parce que c'est un monsieur qui est sorti du monde rural, il est arrivé par exemple dans la ville ici, et il a vu des filles se balader le long du boulevard pour vendre leur corps, sans savoir que, dans le temps ancien, comme vous le dites, ce métier existait. Parce que nous avons vu dans nos familles des cousins qui n'ont pas de papa. Ça existe, nous les connaissons. Et que leur maman s'adonnait à cette pratique-là. Mmh. On n'a pas de honte à le dire.
Donc, Dr Richard, nous vous gardons en ligne. Nous allons écouter Alex de Colombie et Douma, qui est le président d'une association des personnes vivant avec le VIH-SIDA à Bukavu.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Alex.
Bonjour Madame la journaliste, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Oui, que proposez-vous pour un comportement qui soit conséquent face au VIH-SIDA?
Bon, disons que à Colombie, il existe trois phénomènes sur lesquels je voudrais m'appesantir un peu. Il s'agit essentiellement de l'exploitation artisanale par l'exploitation artisanale du minerai de cuivre, qui fait que il regroupe beaucoup de gens, des jeunes garçons et des jeunes filles, qui s'adonnent à la prostitution. Il y a deuxièmement, à Colombie, il existe encore des maisons de tolérance. Ces maisons abritent des jeunes filles qui viennent de tous les coins de la République démocratique du Congo et même qui viennent d'autres pays avoisinants. Et le troisième point, c'est la prise en charge. Concernant le premier point, j'ai constaté que dans les sites où on fait l'exploitation artisanale, il se retrouve plusieurs jeunes gens et plusieurs jeunes filles qui font la prostitution sans aucun contrôle. Et là, ça facilite la propagation du VIH-SIDA. Concernant le deuxième point, c'est-à-dire les maisons de tolérance, les jeunes filles qui font la prostitution hébergent les jeunes garçons dans des hôtels. Et ces hôtels sont tolérés par les autorités. Et il n'y a aucun contrôle suffisant pour essayer d'éradiquer ce mal. Bon, dans au troisième point, il s'agit de la prise en charge. Il y a sûrement des gens qui sont atteints par le VIH-SIDA. Mais comment est-ce qu'ils sont pris en charge après le dépistage volontaire ou involontaire? Nous n'avons aucun exemple, les médias locaux n'en parlent pas. En tout cas, il n'y a même pas de campagne de sensibilisation pour dire, voilà, monsieur tel ou madame tel a été pris en charge correctement depuis qu'on a découvert qu'il était porteur sain ou porteur du VIH-SIDA. Voilà un peu, madame, les trois points sur lesquels je voulais m'appesantir. Et je crois que, de ce côté-là, il faudra que les autorités puissent prendre leurs responsabilités afin de mener des actions concrètes pour lutter efficacement contre la propagation de ce mal qui est en train de
venir. Mais à votre avis, il ne faudrait pas, au niveau aussi des quartiers, ou à votre niveau vous-même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui peut être menée pour pouvoir réduire la propagation de cette maladie et surtout sécuriser, si on peut dire, les personnes vivant avec le VIH-SIDA, parce que au-delà de tout, ces personnes sont comme nous, à part qu'ils ont été affectés. Ils ont aussi des droits. Oui,
tout à fait. Ces personnes sont comme nous, elles ont été affectées, mais il est vrai que la première chose, la première protection, elle est individuelle. Chaque personne doit prendre ses responsabilités pour se protéger individuellement, personnellement. Il y a l'abstinence, il y a l'utilisation des préservatifs, il y a bon. Tout ça, c'est bien connu. Mais ici, je voudrais parler d'une manière globale, c'est-à-dire la communauté doit être prise en charge par les gouvernants. La communauté doit être prise en charge par ceux-là même qui ont le devoir de les protéger. Or, ceux qui ont le devoir de protéger la communauté, la population, c'est l'autorité. Mais on ne voit pas, on ne sent pas la présence de l'autorité sur la lutte contre le VIH-SIDA. Voilà un peu ce qui m'intrigue ici au niveau de Colombie.
Merci Alex de Colombie pour votre intervention. Bonjour Douma.
Bonjour madame.
Le président de l'association des personnes vivant avec le VIH-SIDA à Bukavu. Dites-nous un peu, à votre avis, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, quel est le comportement responsable pour faire face à cette pandémie en tant que personne vivant avec le VIH-SIDA?
Le comportement, tu sais, premièrement, d'après ce que je veux dire, c'est d'accepter d'abord. Accepter son statut, et après avoir accepté son statut, et accepter de vivre aussi positivement avec ce que je peux dire sur ce point-là.
Et en tant qu'une personne qui vit avec le VIH-SIDA, est-ce que vous pensez qu'au sein de votre société, vous vous sentez discriminé?
Non, je ne me sens pas du tout discriminé, du fait qu'on s'est accepté. Seulement, il y a quelques problèmes qui se posent, surtout sur la prise en charge. Surtout ici chez nous à Bukavu, en tant que personne vivant avec le VIH, Nous connaissons souvent des problèmes de manque de médicaments pour le traitement des infections opportunistes. C'est un problème vraiment fréquent ici chez nous. Et on n'a pas surtout accès aux analyses, des examens d'analyse biologique. Ça pose aussi problème. Et il y a aussi manque d'ARV de deuxième ligne. Et un autre point qu'on peut souligner que nous faisons face, il y a discrimination des TGV dans l'administration des soins, dans les structures de prise en charge. Là, je peux m'expliquer un peu, c'est-à-dire que ces structures-là ne se limitent qu'aux malades qu'ils ont. Mais ça pose un peu de problème pour les autres malades qui ne peuvent pas avoir accès à ces structures-là.
Mmh. Est-ce que vous avez déjà essayé de pouvoir proposer des projets pour pouvoir élargir, en fait, la prise en charge des personnes vivant avec VIH-SIDA?
Le projet, ça existe, madame. D'après ce que je peux dire, il y a seulement manque de volonté. Parce que, par exemple, lorsque je vous ai dit là, la réalité des examens biologiques, le contrôle des CD4, par exemple, là, c'est uniquement pour les malades vivant avec le VIH.
Mm-hmm.
Donc, on le soigne à partir de ce contrôle biologique-là. Mais on ne le fait pas actuellement, en tout cas. Ça fait plus d'une année et demie qu'on ne le fait plus. Alors, comment le soigner? Alors qu'on ne connaît même pas comment évoluent nos CD4, pardon. Alors ça cause vraiment un grand problème. Mmh. Il y a aussi le manque de discrétion qui aggrave la stigmatisation parmi nous.
Et on regarde tous ces problèmes, donc vous faites des propositions, on ne vous entend pas. Et quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui, parce que demain, c'est la journée mondiale, mais aujourd'hui, vous, en tant que personne vivant avec VIH-SIDA, quel est le message?
Le message que nous lançons, c'est que d'abord, qu'on ne se limite pas à des manifestations, gaspiller beaucoup d'argent dans ces manifestations, alors qu'il y a parmi nous nos pères, pères de soeurs vivant avec le VIH hospitalisé, qui manquent même de médicaments dans les centres de santé. On dépense beaucoup d'argent dans tout cela, mais nous, ça ne nous arrange, ça ne nous...
Ça
ne
vous préoccupe pas.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qu'on peut demander, c'est, comme recommandation au gouvernement, c'est de renforcer le partenariat entre bailleurs et l'IFOP et le médecin ou infirmier traitant. Et que le gouvernement puisse respecter ses engagements vis-à-vis des PVV.
Merci beaucoup, Djuma, pour votre intervention. Vous êtes président d'une association des personnes vivant avec VIH-SIDA à Bukavu. Nous allons maintenant au nord, Kivu, précisément à Goma. Bonjour, Kabongo.
Bonjour, monsieur l'animateur, bonjour, tous les auditeurs de la radio.
Ça, c'est intéressant que vous puissiez confondre ma voix à une voix masculine. N'empêche, Kabongo, dites-nous à votre avis, quelles sont vos propositions pour pouvoir lutter contre le VIH-SIDA, surtout un comportement à pouvoir adopter pour lutter contre cette maladie.
Merci pour votre question. Vous venez de me demander directement de donner des propositions. Alors, mm-hmm. Je propose ceci, parce que le SIDA est là et le reste est permanent, c'est la même chose. Je voulais dire quoi? Je demande d'abord au gouvernement de voter un budget conséquent pour lutter contre ces maladies. Deuxièmement, on peut parler aujourd'hui de la mode de prévention qui est l'abstinence, bonne fidélité, l'utilisation des préservatifs et le dépistage. Mais le tout est basé sur le socle qui est la sensibilisation. On ne peut pas parler de la prévention des VIH sans la sensibilisation. Donc, il faudrait encore sensibiliser tout le monde vers même les 500 de ce pays qui a une grandeur de 1 contre 6. Troisièmement, il faut encore disponibiliser les antirétroviraux partout dans le pays parce que les antirétroviraux sont regroupés tout simplement dans de grandes villes. Ici, nous allons à Goma, peut-être si vous allez à Walisale ou à l'intérieur de Walisale, les ARV ne sont pas disponibles. Alors, j'ai maintenant une question que je devrais poser à monsieur l'invité, qui s'est absenté, on ne sait pas pourquoi, mais la question est la suivante. où en est-on, parce que je suis un DJ d'un Ganda ici à Goma, mm-hmm. où en est-on avec le projet que le PNLS a financé à la Mosongo dans le cadre de la sensibilisation intitulée Communication incitative pour le changement de comportement, dont la sensibilisation était prévue de se faire pendant le jour et pendant la nuit. Pendant le jour comme sensibilisation professionnelle et pendant la nuit comme la sensibilisation des masses. Donc, nous ne voyons plus la sensibilisation des masses, mais où est parti cet argent, les 500 000 qu'on a donné? Et le sensibilisateur nous déclare qu'ils ont 5 mois en payé au moment où le PNLS a donné cet argent. Madame, voilà comment la population congolaise est sacrifiée. Donc, il n'y a pas un suivi cohérent. Quand le bailleur de fonds donne son argent, donc l'argent est disparu à la nature.
Mais entre-temps, dites-nous, Sabongo de Goma, quand même il y avait des campagnes de sensibilisation, même dans les Nganda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passait?
Madame, venez faire l'enquête. Je suis un DJ d'un Nganda ici. La sensibilisation ne se fait plus pendant la nuit, ça se fait que pendant le jour. Or, le jour, il n'y a qu'une petite quantité de clients qui arrivent. Mais c'est pendant la nuit où il s'était prévu une consultation de masse, les sensibilisateurs nous déclarent que non, ils sont impayés et l'AMO Congo ne donne pas l'argent pour exécuter
le projet. Mais qu'est-ce qui était fait, par exemple, quand vous êtes DJ, vous êtes en train de mettre la musique la nuit, et comment ça s'est passé, cette sensibilisation de nuit?
Madame, c'était bien organisé. Il y avait le sensibilisateur qui arrive, nous avertit, donc arrive auprès de DJ, avertit le DJ que non, maintenant, il y aura la sensibilisation pendant 30 ou 45 minutes. Et pendant 15 minutes, il y a un petit message qui passe sur le VSK. Après ce petit message, il y avait un jeu concours organisé par le sensibilisateur d'Amo Congo. Après le jeu concours, il y avait le jeu de questions-réponses. Mais c'était seulement 2 mois. Or, quand le projet était prévu de 9 mois, c'était seulement pendant 2 mois. Alors, on regrette jusqu'à ce jour où est parti cet argent. Et le sensibilisateur qui nous déclare, ils ont 5 mois impayés au moment où le projet se termine le 29 décembre.
Est-ce que vous pensez qu'il y avait eu un impact positif lors de cette sensibilisation?
L'impact positif est que il y avait engouement de clients, donc de patients qui se dirigeaient vers le centre de dépistage. Et par ailleurs, qu'est-ce que j'allais encore ajouter? Il serait mieux qu'on multiplie, donc qu'on donne le CDV mobile. Donc, quand il y a le CDV mobile, les malades seront disponibles pour se dépister au moment où ils vont sensibiliser. Par exemple, vous sensibilisez malade, vous lui demandez d'aller au centre de dépistage. Il arrive là à 6h du matin, il trouve 15 personnes ou 20 personnes, et il va quitter là à 10h, lui-même sera fatigué, il rentre à la maison et il ne sera pas dépisté. Et c'est les conséquences qui arrivent vous-même, vous connaissez.
Merci beaucoup, Kabongo, pour votre témoignage. Vous déplorez que le projet qui avait déjà démarré n'a pas pu continuer. Vous posez des questions pour savoir où sont partis les fonds. Moi, je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Et notre invité qui a dit qu'il ne viendra pas, hein, parce que là c'est un peu difficile, au moins s'il serait là, il aurait pu donner des éclaircissements. Mais merci, grâce à votre témoignage, nous apprenons qu'à Goma, il y a quand même des campagnes de sensibilisation qui se sont tenues dans les boîtes de nuit. Et nous vous remercions. Nous allons prendre Thomas de Kisangani, puis nous allons revenir à Dr Richard, que nous avons gardé pendant un bon bout de temps. Thomas de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Thomas, vous écoute. Et quelles sont vos propositions?
Ok, moi, j'ai quelques propositions, surtout pour les personnes vivant avec le VIH, le PVD. Parce qu'il faut les encadrer et les sensibiliser. Parce que moi, j'ai un témoignage ici. Il y avait une maman qui était déclarée PVD. Mais malheureusement, cette maman, au lieu de rester comme de rester fidèle, mais cette maman a propagé, en tout cas c'est grave, le sida. Il y a même un papa qui est tombé aujourd'hui malade à cause d'avoir fait des relations sexuelles avec cette maman. Alors c'est grave, ça c'est encore.
Et vous pensez grave. Thomas, que ce n'est pas une responsabilité partagée parce que le papa était adulte, il pouvait aussi exiger le port du préservatif ou bien il pouvait être fidèle à son partenaire.
C'est ça. Il y a la responsabilité entre ces deux personnes. Mais moi, je m'engage beaucoup sur cette maman parce qu'elle est déjà déclarée. Mais il ne faut pas que je propage encore parce qu'elle se reconnaît. Elle se reconnaît pas.
Et il faudrait aussi souligner que la loi, quand même, condamne ce genre de comportement parce qu'il y a une loi pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA qui protège les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Et la loi condamne ce genre de comportement.
C'est pourquoi moi j'ai demandé qu'il y ait la sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise ces gens-là, les PVV, pour qu'ils ne puissent pas encore propager le SIDA.
Merci beaucoup Thomas de Kisangani.
Parole aux auditeurs.
Docteur Richard, on vous a vraiment retenu pendant longtemps, comme ça on pourra encore une fois échanger sur ce que on pourra échanger sur ce que pensent les auditeurs. Je pense que vous les avez suivis.
Oui.
Concernant la prise en charge, ce qui est assez difficile. Aussi, la campagne de sensibilisation qui a été arrêtée, pourtant, elle portait déjà ses fruits. En gros, on constate que les gens savent comment se protéger comme le VIH-SIDA. Mais pourquoi il y a ce comportement, ce changement de comportement n'est pas perceptible? On a l'impression que les gens savent, mais ils essaient de faire semblant.
Oui, c'est parce que la majorité n'accède pas aux messages en rapport avec la sensibilisation. Prenons à titre d'exemple ce que notre ami de Colésie nous a un peu décrit, dans, disons au niveau des sites de recherche de minéraux. Là-bas, vous savez que l'alcool est maître là-bas. Vous savez aussi que l'alcool s'est osé. Ces gens-là, après avoir récolté leurs diamants, ils vont manger et boire. Donc, les constatons, voilà comment on
En tout cas, docteur Richard, on va pouvoir vous rappeler parce que là, la ligne s'est vraiment détériorée. Le temps que vous puissiez peut-être vous déplacer, changer de position.
Oui, changer de position.
Là, peut-être la ligne pourra s'améliorer. Le docteur Richard, vous êtes en train de parler de l'alcool aidant, on peut oser.
Dans les carrières de. Disons les carrières, là on cherche des façons artisanales des minéraux, et c'est ce qui domine. Ce comportement-là conduit à la chute des barrières, parce que l'alcool s'est osé. Voilà. Et puis l'argent aidant, on peut acheter ce qu'on a besoin à n'importe quel prix. C'est-à-dire acheter aussi la jouissance. Ça, c'est ce que je peux dire à notre ami de Colésie. Quant à la prise en charge, la prise en charge, c'est pas seulement donner des médicaments des ARV, mais c'est aussi la prise en charge psycho-affective. C'est le fait d'amener celui qui est contaminé à accepter son statut.
Mmh,
et à
voir
aussi lui, ce n'est pas la fatalité. Et à s'intégrer dans la communauté pour que la stigmatisation soit un peu amoindrie. Et il faudrait pas aussi que il soit dans la pitié de soi, sinon il n'avancera pas. Il y a aussi la prise en charge alimentaire. Qu'est-ce que les PVV consomment? C'est là aussi où nous devons travailler. Il y a un grand travail que nous avons laissé à la bioéthique de l'école de santé publique. Là, nous avons démontré que sur le plan alimentaire, les PVV ne sont pas protégés. Pourquoi? Ils prennent parfois des aliments qui dépriment la santé. On peut citer ces aliments, on peut citer des régimes alimentaires qui dépriment. Par exemple, quelqu'un qui, en longueur de journée, prend un pain avec la boisson sucrée, il a consommé quoi? Il n'a rien consommé de positif qui puisse faire avancer son état de santé.
Vous avez dit que ce genre d'aliments aussi peut déprimer la personne.
Mais justement, parce que quand il prend des aliments comme ça, c'est trop sucré, il peut tomber dans le diabète. Ou alors quelqu'un qui prend juste des jus qui sont que des colorants avec un petit morceau de beignet. Pour lui, le jus, là, c'est quoi? Dans un pays où, sur les mangues, il manque pour lui. Il faut qu'on les amène à la bonne information du corps alimentaire afin de chercher dans l'alimentation des nutriments et non seulement remplir le ventre. Voilà. Avec
qui n'importe quoi. Oui, et aussi parlons de ce dépistage volontaire. Est-ce que vous pensez, lorsque vous rencontrez vos malades, que sur le plan psychologique, les personnes sont assez fortes pour aller à un dépistage volontaire?
Oui, beaucoup acceptent ça, parce qu'aujourd'hui, connaître sa psychologie n'est pas une fatalité.
Mmh.
Et ce n'est pas aussi une licence qui sera donnée à l'époque pratique. C'est ce qui peut amener la personne à se faire contaminer. Mais c'est une assurance intérieure personnelle pour se contrôler et contrôler aussi tous ceux qui sont autour de lui.
Docteur Richard, en tout cas, nous vous remercions pour votre intervention, pour le temps que vous nous avez. On vous a pris presque 30 minutes.
Et vous m'avez aidé à aider aussi la République.
Merci,
docteur.
Merci beaucoup, docteur Richard, pour votre temps que vous avez accordé à parole aux auditeurs. Nous prenons Bienfait de Bounia. Bonjour.
Bonjour, madame.
Quelles sont vos propositions, Bienfait, pour pouvoir changer un comportement, aussi éviter la contamination ou la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA?
Bon, selon moi, je pense que la première chose est que nous, les jeunes, nous devons d'abord changer nos comportements. Parce que la responsabilité nous revient, nous, les jeunes. Quand nous voyons la majorité décider, ce sont toujours des jeunes. Aussi longtemps que les jeunes ne prennent pas conscience, je ne pense pas qu'on peut diminuer le nombre de gens qui souffrent des sida.
Donc, une prise de conscience, même si bien fait. De Bounia, nous avons Franck, il nous écrit à partir d'Autriche, à travers notre adresse internet pa@radiosapi.net. Comme mécanisme de prévention contre le VIH-SIDA, je trouve qu'il faut plus responsabiliser les hommes en leur faisant voir les limites de leurs actes que de s'attaquer aux apports de la civilisation. D'abord, il faut préciser que le VIH-SIDA a beaucoup de modes de contamination. Dans la plupart de nos villages en RDC, où il n'y a aucun hôtel ou guest house, il y a des tendances de débauche, il y a des prostituées, même à l'Antiquité, de telles pratiques existaient et elles vont toujours exister. Selon moi, l'unique solution, c'est d'abord la prudence et la fidélité. C'est au niveau de la responsabilité de chacun, au niveau personnel ou encore conjugal, le souci que chacun des membres doit avoir de sa propre vie. Les autres différents mécanismes de sensibilisation au niveau médical sont également très utiles et nécessaires et ne font que s'inscrire dans cette rubrique. Merci Franck, vous nous avez écrit à partir de l'Autriche. Et vous aussi, si vous voulez réagir, c'est pa@radiocapi.net. Et nous retournons en Bougima au Kasaï oriental. Bonjour Justin.
Bonjour Marie-Chantal.
De Bougima, et quelles sont les propositions?
Madame, sincèrement, je remercie la radio Capi pour cette opportunité qu'elle nous offre en vue de porter nos idées à des sujets pareils. Personnellement, madame, je vis de faire pour cette fléau qui est en train d'envahir la RDC de notre pays et surtout le Kasaï oriental en particulier. Ici, on le sait, madame, la jeunesse est victime de cette maladie, je peux dire à 40%. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement manque en fait d'innovation pour combattre cette maladie.
Et à votre avis, quelles sont les innovations pour pouvoir combattre cette maladie?
Moi, personnellement, madame, je vous parle, je suis du corps médical. C'est-à-dire, j'ai personnellement des maladies concernant cette maladie. Je me parle, mais comme concept, je pourrais créer une activité professionnelle.
En tout cas, nous avons un problème de liaison avec Justin. Justin, mais j'espère que vous êtes toujours au bout du fil. Essayez un peu de vous déplacer, peut-être même sortir de l'endroit où vous vous trouvez. Apparemment, vous êtes dans un endroit clos. Là, nous avons perdu Justin de Mbujima. Il a dit qu'il faisait partie du corps médical et qu'il pense qu'il faudrait que les autorités puissent avoir des innovations dans la sensibilisation pour lutter contre le VIH-SIDA. Peut-être que nous allons essayer de pouvoir le recontacter pour en donner son avis, parce que les innovations, ça aide toujours, ça permet d'ajouter un plus dans la lutte contre le VIH-SIDA. Mais entre-temps, nous poursuivons cette émission qui est en train de tendre vers sa fin. Dans moins de deux minutes, nous allons arriver à la fin de cette émission qui était centrée dans la lutte contre le VIH-Sida, bien sûr en prélude de la journée mondiale contre le VIH-Sida qui est célébrée chaque 1er décembre de l'année. Bonjour Ousley.
Bonjour maman.
Oui, vous êtes à Taranga, le Kasaï voisin du Kasaï oriental, mais là c'est le Kasaï occidental. Quelles sont vos propositions ici?
S'il vous plaît maman, si vous pouvez répondre un peu à la question, je vous dis, vous n'êtes pas bien suivi.
Quelles sont vos propositions, à votre avis, pour songer, adopter un comportement adapté, conséquent, face au VIH-Sida?
Oui, vous savez, entièrement, c'est comme si tout le monde a un informé. Alors, nous avons dû constater que beaucoup d'organismes qui s'intéressaient à cette lutte ne semblent pas avoir maintenant un œil ouvert pour justement pallier à cette...
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi, à votre avis?
Il faudrait faire un effort, réveiller l'attention du gouvernement national, qui puisse implanter dans presque toutes les villes et tous les villages des centres de sensibilisation, justement pour informer la population, afin de se préparer conséquemment pour éviter la propagation de cette maladie qui aujourd'hui occupe la première place et un grand pourcentage dans nos sociétés dans le milieu.
Merci Wesley, mais il ne faudrait pas oublier que le paludisme tue plus que le VIH-Sida, mais le VIH-Sida c'est aussi une préoccupation, c'était notre préoccupation au cours de cette émission.
Merci beaucoup.
Allô? Oui. Il ne répond pas?
Nous disons merci à tous les auditeurs qui sont intervenus, sans oublier ceux qui nous ont écoutés en FM ou sur www.radiotapis.net. Les microcrédits seront centre de parole aux auditeurs de demain. De plus en plus de structures de microfinances ouvrent leurs portes en RDC, que ce soit sous forme de coopératives ou d'associations. Quel est l'impact des prêts dans votre vécu quotidien? Vous pouvez donner votre avis dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à Titine Poutou, à Pierre Lamézi, à Nicole Gaka, Mimi Kindou qui ont réalisé cette émission. Marie-Chantal Lomba était à la présentation. Restez branchés sur Radio Capi, la chaîne de la paix, pour la suite de ce programme.